Bonjour, je suis Anna Mouglalis. Vous écoutez 355, le podcast de Chanel. Dans la suite de Chanel au Majestique, ce soir, tout est très beau. Tout est feutré. En face de moi, la Grande Bleue, la mer Méditerranée, en cinémascope. Mais il y a une folle effervescence en bas. Nous sommes au Festival de Cannes, le plus prestigieux festival du cinéma au monde. En bas sur la croisette, c'est la frénésie de 18h. L'embouteillage vers la montée des marches. Pour ce cinquième chapitre de 355, je reçois des personnalités du monde du cinéma dont j'admire le travail singulier. Avec eux, nous échangerons sur la création, l'audace et la liberté. Dans un dialogue inspiré par le personnage de Gabrielle Chanel, qui fut proche du cinéma et créatrice de tout un monde, celui de la femme moderne. Créer des mondes, c'est aussi ce que tente le cinéma dans chaque film. J'ai échangé avec Rebecca Zlotowski, scénariste et réalisatrice française, qui en seulement 3 films s'est imposée comme une des plus brillantes de sa génération. Son premier long métrage, Belle Épine, était présent à Cannes en 2010 dans le cadre de la Semaine de la Critique. Ces films ont réuni des acteurs et actrices de talent comme Léa Seydoux, Nathalie Portman, Lily Rose Depp ou Tahar Rahim. Est-ce que ça tourne là? Ça tourne, hein? Bah, c'est, voilà, je demandais parce que c'est magnifique ce que tu viens de me dire. J'ai laissé, bonjour Rebecca.
Bonjour Anna.
J'ai laissé tomber ma cigarette électronique en croisant Kristen Stewart et tu t'es allumé une vraie cigarette.
Écoute, elle te donne envie d'aller tout de suite dans le vif du sujet, oui.
Voilà, et on parlait avec Kristen de la femme moderne. On est dans la suite Chanel. Chanel a beaucoup œuvré à ça. Elle a inventé une femme moderne en la libérant du corset, en se proposant son propre espace dans lequel elle pouvait rayonner comme une beauté, alors qu'elle ne correspondait pas du tout au canon de l'époque. Elle les a inventées pour elle-même.
Je me reconnais beaucoup, je m'identifie beaucoup dans cette démarche.
Mais voilà, une vraie démarche de création. La création amène à la liberté. Pas que, bon, la création peut être hyper douloureuse, mais elle est un chemin quand même. Un chemin vers quelque chose qui respire. Donc j'avais envie de te demander, par rapport à Kristen, que j'identifie aujourd'hui vraiment comme une de ces femmes modernes. Voilà, elle a quelque chose de singulier qui fait tomber l'électronique. Qu'est-ce que c'est pour toi la modernité, une femme moderne?
Déjà la notion de modernité, elle se réactualise en fait à chaque fois dans chaque champ de la représentation. On ne sait pas vraiment. Il faudrait dire qu'est-ce que c'est que une forme moderne au cinéma, qu'est-ce que c'est que bon. Et si on parle de Kristen et si on parle aussi de ce que sont ces grandes précurseurs, précurseuses comme ce qu'a été Coco Chanel sur la question en fait de la réinvention du stéréotype féminin. Pour moi, c'est là que la modernité se niche, c'est-à-dire comment, en fait, quand on a le désir, la responsabilité de faire bouger les lignes, on réinvente le corps de la femme et on réinvente le corps de l'homme aussi. Mmh. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais particulièrement émue en voyant Kristen Stewart, c'est que comme Léa Seydoux, comme peut-être Simone Signoret l'a été à un moment, ou Annie Girardot, pas Anna, voilà, mais on peut l'embrasser aussi, sont des femmes qui, à un moment, sont des actrices, comme certains acteurs l'ont fait aussi, ont réinventé ce qu'était le stéréotype féminin. Et que la lutte, d'une certaine manière, pour faire avancer les mentalités et faire se déplacer les lignes sur ce que représentait le féminin, ce sont les actrices et pas seulement les metteurs en scène qui l'ont porté. Et toi aussi, d'une certaine manière, Anna, parce que je m'adresse aussi à l'actrice, je trouve que dans... Alors, je dis pas ça parce que tu es notre présidente depuis peu de temps.
N'est-ce pas ?
Mais je trouve que c'est important, indépendamment de la question de la représentation, dans un certain rapport à... C'est pas uniquement la liberté, c'est où se niche la séduction, où se niche la personnalité, et tout ça, ça fait se déplacer les lignes. Et la responsabilité, elle est du côté des actrices et des acteurs maintenant, dans leur propre corps. Je trouve qu'on a devant nous une génération de jeunes actrices hallucinantes sur ce registre-là, qui sont les fers de lance, en fait, de nouveaux modèles, quoi, et qui portent la question du genre.
Et justement, tu faisais comme ça... tu rapprochais Léa Seydoux, qui a tourné dans deux de tes films, qui s'est vraiment révélée en tant que formidable actrice dans des films à toi. Enfin, c'est ce que je pense. Mais je pense que j'ai même lu qu'elle le disait elle-même.
J'ai eu la chance de tourner deux films avec elle, dont l'un qui était quasiment l'un de ses premiers grands rôles, Belle Épine, et le deuxième, très différent, dans lequel elle était une travailleuse du nucléaire. Et oui, c'est vrai que j'ai cette chance-là.
Mais pour moi, l'espèce de lien qu'il peut y avoir entre Kristen et Léa, c'est aussi ce rapport hors écran, à l'écran, mais aussi dans la vie, puisque c'est des actrices qui ont énormément de succès, qui participent à l'industrie hollywoodienne. Mm-hmm. Y a ce rapport qui peut-être est moderne, tu me diras ce que tu en penses, qu'il y a chez Gabriel Chanel aussi, il y a déjà quelques années. Mais qui est ce rapport au non-affichage du bonheur permanent, de la satisfaction permanente.
Je vois ce que tu veux dire.
Et le fait que des actrices comme Léa, comme Kristen Stewart, se permettent, par exemple, de ne pas sourire, de ne pas être dans ce commerce de « je suis tellement heureuse de faire ce que je fais », mais d'être à leur endroit d'actrice, à leur endroit en fait de création, parce que c'est toujours compliqué pour l'actrice de trouver où elle est créatrice. Et j'ai la sensation ou l'intuition que ce refus auquel je suis sensible, du sourire...
Tu veux nous dire quelque chose?
Non, ce refus du sourire est finalement quelque chose qui est un attribut assez viril.
Oui.
Et qui se retrouve formidablement incarné par ces femmes qui transforment la perception de la femme puissante. C'est pas parce qu'elle est puissante qu'elle va sourire et être dans une satisfaction.
Oui, elle ne se conforme pas. Il y a une idée de... Je suis absolument d'accord. Enfin, je trouve ça très... Je trouve que tu le formules de manière brillante, c'est qu'il y a chez ces femmes qui peuvent accéder à un pouvoir économique et artistique, l'idée qu'on n'a pas à en passer par la minauderie. Et que lorsqu'on se donne des modèles, les modèles peuvent aussi être masculins. Et ça, c'est vraiment l'une des nouveautés des 10 dernières années. C'est-à-dire, quand on demande à Léa Seydoux quelle est l'actrice qui l'a inspirée, elle dit c'est Marlon Brando.
Ah, moi aussi.
Bon. tu vois, vous êtes. Bon, par ailleurs, c'est un inspirateur hors norme, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une espèce de voilà, la ligne se floute entre les inspirations. Disons que le viril se niche partout, le féminin et le masculin se nichent partout et il peut être incarné par des corps féminins et des corps masculins. Après, à titre personnel, en tant que réalisatrice, c'est certain que j'ai toujours, et vous l'entendez peut-être dans ma voix, une certaine manière volontaire, souvent quand j'écris mes scénarios, quand j'écrivais le personnage de Léa, je commençais toujours par dire « elle arrive, belle et volontaire ». Et le mot « volontaire », c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi dans l'attribution, l'assignation, en tous les cas, d'une féminité qui a du sens pour moi. C'est-à-dire, elle n'en passe pas par le désir absolu de séduire. C'est peut-être ce que tu racontes. Je te tutoie, pardon, parce qu'on
Mais
se connaît, qu'on s'aime depuis
tutoie,
longtemps.
Avec elle, moi aussi, je te tutoie.
Et c'est de ne pas forcément en passer par... le plaisir d'un homme à nous regarder, le plaisir d'un homme à nous observer comme une fleur, ou là on peut avoir des hommages quand on est une jeune femme ou une femme qui serait d'ordre végétal. Et en vérité, je pense que quand tu dis elle ne sourit pas, c'est aussi une manière de dire notre métier est sérieux. Et j'ai le souvenir d'avoir fait des... Quand on commence à faire des films et qu'on est une femme, à l'époque en plus j'étais vraiment dans ma vingtaine, à la fin de la vingtaine, on nous posait systématiquement la question de notre sexe, et qui est une question qui était très, très nouvelle pour moi, puisque moi j'avais une carrière d'universitaire et la question se posait pas ou à peine. Et l'image s'en est mêlée, et quand il était question par exemple de faire des images pour des journaux, je me souviens qu'on me demandait de poser, et puis je n'en avais pas l'usage, quoi, je n'avais pas l'habitude. Je pense qu'Olivia Sayas, avec qui Kristen Stewart a tourné, n'en avait pas l'habitude non plus, au même titre que moi, que Jacques Audiard, que Arnaud Desplechin, et qu'on ne leur demandait pas de poser de la même manière. Et je me souviendrai toute ma vie d'un jour, on a fait une série photo, c'était aux États-Unis, c'était pendant les rencontres d'Unifrance à New York, et on nous a demandé de poser à plusieurs réalisatrices. J'étais heureuse en même temps de faire partie d'une vague solidaire de nouvelles réalisatrices qui pouvaient porter un peu la parole de la simplicité en France, de fabriquer, du bonheur qu'on a de faire des films en France, parce que le cinéma d'auteur est valorisé pour tout un tas de raisons d'ordre économique. Mais en même temps, je reconnaissais qu'on nous demandait de poser. Et l'une de mes collègues réalisatrices, je ne sais plus si c'est Mia Hansen-Love ou si c'est Axel Roper, a dit « Ah non, 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 mais moi, je ne vais pas faire ça parce qu'en fait, notre métier est sérieux. Et donc, je vais vous montrer un visage sérieux. Je suis désolée. Pardonnez-moi de ne pas ni sourire ni minauder sur la photo avec ma partenaire du jour, mais en fait, je vais être sérieuse. » Et je souscris pleinement à ça maintenant. De temps en temps, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour parler de joie, il y a un temps pour déconner. Mais le travail qu'on fait, oui, que ce soit le travail de Léa et de Kristen, elles peuvent avoir la même assise que Marlon Brando ou que Bob De Niro quand il arrive à une interview. Et ça, c'est du pouvoir.
Et puis de ne pas, par exemple, de participer au métier de l'image sans forcément en jouir.
Dans quel sens tu veux dire ça ?
Par exemple, ne pas aimer être photographié.
Toi, tu aimes être photographié ?
Alors, j'aime les rencontres. Et bon, Karl Lagerfeld m'a donné... Moi, quelque chose de très précieux, parce que quand il m'a photographié, moi, je l'ai rencontré, je pensais tomber au cœur de la superficialité, j'entrais dans la mode, mais j'ai rencontré cet homme-là, qui m'a apporté beaucoup.
Je me souviens qu'à cette époque, t'écoutais Charles Aznavour et t'avais les cheveux courts.
Quand j'ai rencontré Karl, j'avais encore les cheveux longs.
Et c'est lui qui t'a amené à les couper ?
Non, je les ai coupés pour un film.
Ah, je me souviens, pour La vie nouvelle de Philippe Grandrieu.
Exactement. Et je les avais coupés
une
première fois.
Moi, je connais ta filmo sur le bout des doigts.
C'est vrai. Mais je les avais coupés une première fois seule aussi, pour, dans un souci de liberté. Bon, c'est quand même une sacrée atteinte à soi-même. Hein, je m'étais rasé la tête.
Ouais, oui.
À blanc. Pour pouvoir prendre le métro tranquillement.
Pourquoi ? Parce que sinon, ta beauté t'amenait en fait trop dommages qui t'empêchaient de...
Sans doute le flot de sensualité qu'il y a dans les cheveux, le fait que j'avais l'air d'une jeune première, et c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Trop d'agression, de sollicitation. J'avoue que le fait d'avoir rasé ma tête a vraiment réglé le problème.
Enfin, j'en suis pas sûre, parce que moi, je t'ai vue avec les cheveux courts et t'étais malheureusement, pour toi, tout aussi belle.
Ah oui, mais ça plaît.
C'est comme Nathalie Portman dans V pour Vendetta, c'est quand même... Oui, ça plaît aussi.
Mais ça plaît à certains, mais pas à tous. Parce que là, quand on reparle d'archétypes, toi, tu t'as inventé des personnages féminins forts. Parce que dans tes films, les personnages féminins portent le film, vraiment.
Bah alors, pardon, mais... En vérité, non. C'est-à-dire que dans mes deux premiers films, j'en ai fait que trois d'abord, donc ouais. On peut pas vraiment parler d'une... Mais dans les deux premiers, je dois reconnaître que Oui, alors le personnage principal de mon premier film, c'était Léa Seydoux, c'est une jeune femme. Mais dans le deuxième, c'était vraiment une wild bunch de travailleurs du nucléaire. Mais je pense que si... Et ça, c'est vraiment la pierre que je voudrais apporter à ça, c'est que... Là, tout à l'heure, je viens de d'avoir une grande conversation sur scène avec Scorsese, parce qu'en tant que présidente de la SRF, la Société des réalisateurs de films, on lui a remis un hommage, qui est un hommage très puissant du cinéma français. Et on me disait, mais le cinéma de Scorsese, c'est un cinéma pas féministe. Alors, c'est un cinéma où, alors, franchement, les femmes, un peu comme Jacques Audiard qui était avec nous et qui l'interrogeait, c'est pas un cinéma du féminin. Bon. Mais je me disais, en fait, très rapidement, la question n'a pas de sens, parce qu'un metteur en scène qui réinvente aussi l'archétype masculin, c'est un metteur en scène féministe, d'une certaine manière. Et moi, quand je fais un film avec des travailleurs du nucléaire et que je leur dis « Mais tu vas faire la vaisselle dans ta petite caravane, en fait », c'est une certaine manière, en fait, de prendre la responsabilité des réalisateurs qu'on est pour dire « Le féminin n'est pas où vous le pensez, et le masculin n'est pas où vous le pensez. » Et ça va sur les deux. Et le personnage qui me plaît le plus, c'est quasiment les hommes.
Ça va pas l'un sans l'autre.
Non.
pour
non, mais c'est encore difficile à comprendre, parce que de temps en temps, on voit des ricottes, des bout à bout, en fait, d'images de films réalisés par des femmes, et on a tendance à ne montrer que des visages féminins. Moi, je revendique la possibilité, en tant que femme cinéaste, d'avoir autant de responsabilités politiques dans ma manière de filmer les femmes que dans ma manière de filmer les hommes. Et pareil, chez les metteurs en scène que j'admire. Quand on voit le travail d'Alain Guiraudy, mmh. Alain Guiraudy, c'est un réalisateur, celui qui a réalisé L'inconnu du lac, Rester vertical. Ouais. Voilà quelqu'un qui, dans un autre registre, qui n'est pas uniquement du côté du masculin-féminin, mais aussi sur la fluidité de genre, et sur la sexualité, le queer, l'homosexualité, a réussi à imposer aussi des modèles nouveaux.
Et ces modèles, en fait, c'est une œuvre. Mais de toute façon, chez les créateurs... oui, effectivement, il a une façon de réinventer la figure du policier qui m'enchante.
Mais c'est vrai qu'il est bien, ce personnage.
Et qui est extrêmement, finalement, réaliste, parce qu'on vit avec le cinéma. Et le cinéma, certaines fois, crée des archétypes. Par exemple, le policier viril.
Bien sûr.
Que Jane Campion fait magnifiquement.
Dans Top of the Lake.
Alors, je suis encore plus sensible à la façon qu'elle a d'inventer l'homme qui n'existe pas dans toute sa virilité. Dans
In
son
the cut.
Thriller.
In the cut. Mark Ruffalo.
Extraordinaire. Mark Ruffalo qui se prête à ça.
Non, mais il est
avec
bon.
Génie.
Ouais.
C'est extraordinaire. Donc, je venais pas t'interroger sur une dissociation entre masculin et féminin du tout. Juste sur, la façon dont, avec son empreinte. Par exemple, je ne fais aucun procès au metteur en scène ou au romancier qui, en tant qu'être, vont écrire de là où ils sont s'ils s'identifient.
Mmh.
En tant qu'être masculin, ils ne le font pas tous. Et ils vont avoir des personnages principaux dans lesquels ils vont pouvoir se projeter. Certains vont se projeter dans des personnages de femmes. C'est assez prodigieux. Dans la littérature, il y a des choses prodigieuses.
Il fallait que t'entendes, il y avait Kate Tempest, qui est une artiste que je trouve, géniale, qui est une rappeuse anglaise, qui aussi écrit, qui est devenue écrivain depuis, 5-6 ans, et qui racontait qu'elle avait écrit son tout dernier roman d'abord en pensant à un personnage masculin, et puis assez rapidement, elle s'est rendue compte qu'en fait, pourquoi est-ce que cet homme qui avait autant de swag, autant de conquêtes, n'était pas une femme lesbienne. Et en fait, elle racontait cette espèce de... Bon, c'était passionnant.
C'est pareil dans Alien, le personnage de Sigourney.
Sigourney était au départ un homme. Mais disons que pour revenir à... Parce que là, tu vois, on est entouré de... Je ne peux pas m'empêcher de voir, et on a des mannequins qui portent des créations spectaculaires. Je crois qu'il y a quelques... Il y a quelques liens invisibles entre le métier de metteur en scène au cinéma et le métier de couturier, qui serait effectivement de tailler des habits qui vont rêver, fantasmer des personnages qui sont les personnages de notre futur. Alors, est-ce que c'est ça que t'appelles modernité, tu vois, dans
oui,
ta première question ?
J'allais vers là. Effectivement, la mode descend dans la rue. La mode crée du réel.
Elle bouleverse la morphologie des villes et des gens. Je me souviendrai toute ma vie quand j'ai habité à Lyon. Une fois dans ma vie, pour mes études, je vais évidemment me vanter, j'étais à Normale Sup à Lyon, et moi qui était parisienne, je ne sais pas, je pense que le champagne cannois me fait totalement me vanter, mais disons que c'était pour raconter un truc un petit peu moins glamour, qui était que je devais vivre à Lyon pendant un an. Et c'était à l'époque où, vu mon grand âge, les marques, les grandes enseignes, de vulgarisation de la mode, n'étaient pas arrivées dans les villes de province. La morphologie de la ville était différente. Si bien que je me suis rendu compte du pouvoir qu'avait et c'était un moment super agréable en plus de mode, parce que c'était ce petit moment où les physiques étaient beaux, c'est-à-dire il y avait des pantalons très moulants avec des ballerines. C'était on revenait comme ça dans un truc des années 60. En tant que cinéaste, je suis ultra sensible à la question du costume, et je voyais que la ville n'avait pas le même visage, et que les femmes n'étaient pas pouvaient pas extérioriser de la même manière leur personnalité, s'amuser autant avec les variations vestimentaires, du fait de la difficulté à trouver des vêtements différents, des assemblages différents. Quand ces grandes enseignes ont débarqué partout, elles ont aussi, alors évidemment... copieurs de partout. Enfin bon, moi je rentre pas dans le débat économique, hein. Mais elles ont donné la possibilité de donner accès en fait à la rue, de donner ses couturiers, ses pensées, ses psychés en accès à des femmes qui pouvaient pas se les offrir. Et là, ça a changé pas mal de choses dans la morphologie des villes et des gens.
Mais tu vois, en tant que réalisatrice, par exemple, tu décides de tourner un film à l'été, 2014, où la tendance couleur va être le corail. Et tu ne trouveras rien d'autre que du corail. Est-ce que tu fais ton film ?
Alors,
et tu filmes ton actrice en corail ?
Attendez, Anna Moglalis. Il faut savoir que quand on est obsessionnel, comme moi je peux l'être, la question du costume, c'est un rapport à la sémantique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le signe qu'on associe au personnage ? Donc, c'est un vrai travail qui est un travail d'écriture. Et les chefs costumiers, costumières avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler, dont Anaïs Roman, d'ailleurs, avec qui j'ai fait Planétarium, qui est une immense chef costumière, qui a fait aussi Saint-Laurent avec Bonello. Voilà, ce sont des gens qui viennent principalement d'ailleurs du théâtre, hein, souvent. Ce sont des endroits dans lesquels les moyens sont moins grands que les idées. et qui réfléchit, pense la question du costume en fonction de du sens du personnage dans le scénario, de son évolution. De bon, ça c'est un travail qui me passionne par ailleurs. Et puis aussi, je suis proche de José Lévy qui a fait les costumes de tout le théâtre de Arthur Noziciel de ces dernières années, et le rapport du costume au théâtre. Bon, on est dans de la sémiologie pure.
Les couleurs chaudes, les couleurs froides.
Il faut aller les trouver. On peut les inventer. Bon, moi j'ai toujours été fascinée par les uniformes. Ça c'est mon truc à moi. Je me souviens que mes deux premiers films, je désignais avec le chef ou la chef costumière un uniforme à chaque personnage, et j'avais le désir que l'uniforme ne change pas. Alors il pouvait y avoir quelques variations légères, notamment par exemple dans mon deuxième film Grand Central, Léa Seydoux est dans un tout petit short en jean avec un body assez transparent qui laisse apparaître ses tétons turgescents. Qui m'a valu quelques critiques de la part des féministes, ce qui est quand même un con parce que je suis vraiment du côté de ce combat-là. Et en même temps, j'ai reconnu, j'ai accepté.
Tu sais que j'ai induit en Argentine, il y a des jeunes filles, enfin une jeune fille notamment, qu'on a renvoyée chez elle parce qu'elle n'avait pas mis de soutien-gorge.
Oui, je trouve ça tout à fait légitime. Je trouve ça atroce. Pourquoi ?
Mais parce que.
De l'école, on l'a renvoyée.
Dans une école publique. L'a renvoyée de son école publique avec un mot pour ses parents. Il fallait qu'elle aille remettre un soutien-gorge.
Mais
il y a eu un lancer de soutien-gorge derrière. Non, mais c'est pour
ça. Au cœur de ça, c'est toute la question, en fait, de la menace du corps d'une femme. On ne dit pas à une femme comment elle doit s'habiller. Jamais. Jamais. Ni court, ni long, ni couvert, ni découvert. Et je pense que ça, c'est un mantra qui peut nous amener à traverser le moderne et le contemporain d'une manière assez sereine. C'est une femme s'habille comme elle le souhaite.
Il y a énormément de réalisateurs par rapport au choix du costume qui ignorent totalement le fait qu'il tourne en couleur. Mmh. Hein, c'est quelque chose qui était réglé en noir et blanc. mais par exemple, enfin, la cohabitation de couleurs qui font mal aux yeux, ou mais parce que le cinéma c'est de l'image, mais l'image en mouvement, et c'est bien qu'elle soit pensée et qu'elle emporte.
Moi, je pense qu'il y a une responsabilité totale. En vrai, on nous donne tellement d'argent pour faire un film. Pardon.
On te le donne pas, Rebecca.
Non, mais on me le donne pas, moi. On mais c'est quand même des pas, grosses Rebecca. Sommes. Hein. C'est des grosses sommes. C'est-à-dire que si on n'a pas une responsabilité absolue dans ce qu'on fait, c'est ce que disait Bazin, le cinéma, c'est pas une fenêtre qu'on ouvre sur le monde, c'est un cache qu'on met sur le reste. À mesure, si on envisage le cinéma pas comme quelque chose qui nous permet de regarder, mais quelque chose qui nous masque le reste, on a une responsabilité immense qui est de qu'est-ce qu'on fait rentrer dans l'image.
Oui. Bon, Rebecca, en voyant tes films, en voyant... Voilà, les actrices que tu as invitées et qui sont devenues les magnifiques personnages qu'on peut voir sur la scène du cinéma. Je veux te remercier pour le féminin que tu crées.
Je te remercie, Anna.
Et le masculin que tu crées.
Bah oui, ça va te perdre.
Et la transgression.
Je t'embrasse.
Moi aussi.
À bientôt.